Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Escale cette semaine à Genève pour rencontrer Dodo Diène, expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ma Fayek au micro d'Escale cette semaine, bonjour. Dodo Diène ne ménage personne lorsqu'il est appelé à faire part de son opinion. Ancien rapporteur de l'ONU sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, Dodo Diène, réputé pour son franc-parler, avait évoqué il y a quelques années de cela l'enjeu mémoriel central pour les anciens peuples colonisés comme les Africains. Il est absolument capital que ces peuples reconquièrent leur mémoire, disait-il. Aujourd'hui, Dodo Diène est expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Du coup, nouvelle responsabilité oblige, ce fervent partisan du devoir de la mémoire se concentre maintenant sur le présent et le futur, ceux de la Côte d'Ivoire. Dans un rapport qu'il présentait en juin 2013 au Conseil des droits de l'homme à Genève, l'expert indépendant a indiqué avoir perçu l'urgence d'un processus de dialogue politique chez tous les acteurs ivoiriens qu'il a rencontrés. Pour lui, le défi majeur dans ce pays demeure l'engagement de poursuites judiciaires contre les responsables d'abus. La nécessité urgente d'une justice impartiale et équitable est une recommandation récurrente dans tous ses rapports au Conseil des droits de l'homme. Dodo Diène s'est exprimé longuement à ce sujet au micro d'Alpha Diallo.
Monsieur Dodo Diène, vous êtes expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, très brièvement, quelle est la situation des droits humains en Côte d'Ivoire?
La situation des droits humains en Côte d'Ivoire est comme la situation globale, c'est-à-dire que c'est un pays qui se reconstruit après 10 ans d'une crise profonde, mais qui est en train de se reconstruire. D'abord sur le plan institutionnel démocratique, en mettant en place les principales institutions, présidence, assemblée nationale, etc., et également les principales institutions des droits de l'homme, la commission des droits de l'homme, etc. Mais c'est un pays aussi qui sort quand même de 10 ans d'une crise profonde et il y a encore des défis majeurs.
Et quels sont ces défis majeurs?
Les défis sont de 3 natures. Le premier défi, sur le plan de la réconciliation politique et la reconstruction démocratique, c'est la construction d'une démocratie pluraliste, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un pays qui a été fragmenté, fracturé sur le plan politique, fasse en sorte que son cadre démocratique soit le seul cadre où le débat politique peut se faire. Et donc, il faut instaurer un pluralisme inclusif. Faire en sorte que tous les courants politiques de la Côte d'Ivoire trouvent dans le cadre politique ivoirien les voies et moyens de s'exprimer. Le défi, il est là. Le deuxième défi sur le plan maintenant des droits de l'homme, c'est l'instauration d'une justice impartiale et d'une justice équitable. Il faut poursuivre tous ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, quel que soit leur camp politique ou leur origine ethnique ou religieuse. Et enfin, le troisième défi, qui est économique et social, c'est de traduire la forte croissance économique de la Côte d'Ivoire en quelque chose de concret pour le panier de la ménagère.
Justement, avant de creuser, je veux juste avoir votre commentaire par rapport à l'arrestation du secrétaire général national de jeunesse du FPI. Est-ce que vous pensez que cela fragilise le processus politique en Côte d'Ivoire?
Dans ma présentation de mon rapport au Conseil des droits de l'homme, après avoir souligné l'enjeu sensible du dialogue politique et les étapes qui ont été prises, j'ai estimé que dans ce contexte-là, l'arrestation du secrétaire national de la jeunesse du FPI au siège du FPI ne constitue pas un message positif de nature à promouvoir le dialogue.
Et ça veut dire qu'à ce stade, le processus politique est bloqué.
Il n'est pas bloqué, il est évolutif. Et je rappelle que c'est 10 ans de fragmentation politique et de polarisation politique. Et donc, j'ai senti en ce qui me concerne, avec tous mes orateurs que j'ai rencontrés de tous les partis politiques, qu'il y a dans tous les courants politiques 2 tendances. Une tendance qui est beaucoup plus recroquevillée et beaucoup plus partisane, mais j'ai senti aussi une autre tendance qui est ouverte à une dynamique de dialogue politique approfondie.
Pourtant, vous le constatez dans le rapport, vous dites qu'en dépit des appels au dialogue lancés par le gouvernement, les partis d'opposition continuent d'afficher leur méfiance. Pourquoi? Qu'est-ce qui expliquerait cette méfiance?
La méfiance vient de 10 ans de polarisation, d'opposition. Et je le rappelle, d'opposition violente qui a abouti à des milliers de morts. Et au fait aussi que les détenus sont détenus depuis plus de 2 ans sans procès. Et aussi le fait très important qui a été révélé par les élections locales et régionales récentes, qu'il y a une sorte de processus de recomposition politique en Côte d'Ivoire. Parce que le nombre important d'indépendants, même si certains d'entre eux ont ensuite rejoint certains partis politiques, indique que le cadre des partis politiques tels qu'ils sont actuellement ne reflète pas l'extrême diversité de la Côte d'Ivoire et le besoin dans des secteurs importants de ce pays de trouver d'autres cadres d'expression politique.
Est-ce que vous pensez que ce blocage serait lié toujours à la détention des grands leaders du FPI tels que Mme Gbagbo, Pascal Afinguessan, ou bien certains aussi sont là à espérer le retour du président Gbagbo?
Certains espèrent le retour du président Gbagbo, d'autres estiment que les conditions d'un dialogue ne sont pas totalement réunies, notamment parce que le FPI demande une amnistie générale, ce qui n'est pas conforme au droit international, il demande un dialogue direct entre le président Ouattara et l'ancien président Gbagbo. Ce dialogue n'est pas possible puisque Gbagbo est à la haie, et demande aussi la réforme de la commission électorale nationale. Le message que j'ai reçu du pouvoir, c'est qu'ils vont relancer le dialogue politique, notamment dans le cadre national du dialogue, mais ils vont aussi donner des messages forts. Et un de ces messages a été la libération d'un certain nombre de détenus, mais aussi le transfert d'un certain nombre de détenus comme Mme Gbagbo qu'on a amené à Abidjan. Malheureusement, on l'a ramené au Guinée. J'espère qu'on va la ramener à Abidjan pour se faire soigner dans un cadre beaucoup plus différent. Mais il y a 3 questions lourdes qui doivent servir de base d'une négociation. La révision de la liste électorale, la révision de la commission électorale nationale, la création d'un cadre institutionnel légal pour l'opposition.
Mais dans ce scénario, quelle serait la place de la justice quand vous appelez tout le temps à une justice impartiale, équitable? Est-ce que quelque part le signal ne serait pas aussi aujourd'hui d'amener devant les tribunaux ivoiriens des responsables issus du pouvoir comme les chefs d'Ozo ou bien quelques responsables?
L'appel que j'ai formulé dans tous mes rapports et encore dans mon dernier rapport, cet appel a été répété également par les grandes organisations internationales non gouvernementales, mais également, je le rappelle, par la Commission nationale d'enquête, c'est qu'il faut instaurer une justice impartiale. Justice impartiale veut dire poursuivre et juger tous ceux qui ont commis des actes graves de violation des droits de l'homme, quel que soit leur camp.
Est-ce que tant qu'on n'a pas amené devant les tribunaux les auteurs des actes de Djoukoué ou bien les chefs d'Ozo, voilà, on ne parlera pas d'une justice à double vitesse?
Évidemment, on parle de justice à double vitesse, on parle de justice des vainqueurs. Je ne pense pas qu'il y ait une justice des vainqueurs. Mais on demande que des actes concrets soient pris pour traduire devant la justice ceux qui ont commis des actes graves de violation des droits de l'homme et qui sont du côté du pouvoir. Voilà le geste qui est attendu. Je pense qu'il va venir et il est en train de venir. Mais l'autre acte important, c'est l'articulation entre la justice ivoirienne et la justice pénale, la Cour pénale internationale. Par exemple, Mme Gbagbo a été inculpée par la Cour pénale internationale et la Cour pénale a demandé son transfèrement. Ça pose une question difficile. Le gouvernement ivoirien, se basant d'ailleurs sur le statut de l'homme, dit « Nous n'allons pas la transférer, nous allons la juger en Côte d'Ivoire. » Mais dans ce cas, il faut la juger, parce que ça fait 2 ans qu'elle est en détention. Donc, il y a sur le plan de l'impartialité de la justice et de l'équité de la justice, des mesures urgentes et concrètes. Et c'est pour ça que j'ai organisé cette conférence de juristes internationaux à Yamoussoukro en février sur l'impunité et l'équité de la justice. Et nous avons formulé des recommandations précises sur ces questions.
Second volet de cette interview, nous allons parler maintenant de l'aspect sécuritaire. Vous dites dans le rapport qu'au niveau sécuritaire, si les attaques venant de l'extérieur ont chuté de manière significative de janvier à avril 2013, vous concluez tout de même que la situation demeure encore fragile. Est-ce qu'on peut dire que rien n'est encore réglé dans ce pays?
Non, rien n'est encore réglé et rien ne peut être réglé rapidement sur la question de la sécurité. Simplement à cause du fait que ce pays sort de 10 ans de violence, mais aussi de 10 ans de non-droit, où les armes ont circulé dans l'ensemble du pays. Donc, un, il y a une culture de violence qui s'est installée, et d'autre, il y a les moyens de la violence, les armes qui ont circulé. Il y a des zones d'insécurité qui se retrouvent encore, qu'on trouve dans l'ouest du pays,
oui,
à la frontière
là,
avec le Libéria.
Il y a justement des problèmes de milices. Et de notre côté aussi, vous soulevez dans le rapport que les exactions commises par les Dozo et les forces républicaines continuent de constituer une menace sécuritaire intérieure majeure.
Alors, l'impartialité de la justice exige que ceux qui ont commis au sein des FRC comme des oiseaux. Des violations graves des droits de l'homme soient traduites devant la justice. Ce sont ces actes-là qui sont attendus. Des enquêtes ont été faites. Tous ceux qui ont commis des actes de violation des droits de l'homme ont été identifiés. Le président Ouattara a souligné la nécessité d'une justice impartiale et de la poursuite de tous ceux qui ont commis ces violations des droits de l'homme.
Quand vous dites que vous voulez que le programme de désarmement se fasse de manière équitable, vous entendez quoi par là?
Le désarmement doit se faire d'une manière équitable. Il y a plusieurs enjeux importants. Le premier point important, c'est que le désarmement demande que tous ceux qui ont décidé de désarmer et de réintégrer les structures qui leur sont offertes, que l'État ait les moyens de leur offrir ces moyens. Or, l'État ivoirien n'a pas les moyens de réintégrer plus de 6 000 désarmés. Et donc, il y a un problème de ressources. Mais l'État ivoirien a mis au point une structure pour s'en occuper, dirigée par quelqu'un qui a une très grande expérience internationale et une très grande éthique nationale. Mais les incidents récents à Boaké, où d'anciens soldats ont rejeté les propositions qui leur ont été faites d'intégration, et la manière dont certains secteurs du pouvoir ont réagi, indiquent qu'il faut laisser cette institution-là qui s'occupe du désarmement et de la réintégration une autorité complète. Mais ça demande aussi que l'État donne plus de moyens pour la réintégration de ces soldats, mais que la communauté internationale aide l'État ivoirien à réintégrer ces soldats. Si ce n'est pas fait, le mécontentement au sein de ces soldats peut dégénérer et remettre en question la stabilité sécuritaire et le dialogue politique.
Vous parlez de dialogue politique et l'urgence de ce dialogue est déterminée par un facteur, le calendrier électoral. On sait qu'il y aura un scrutin présidentiel en 2015. À ce stade, que redoutez-vous le plus?
Alors, ce que je redoute le plus, c'est que le temps de la négociation et du dialogue politique s'amenuise. Et les deux facteurs qui font que le dialogue politique est urgent, c'est un, le fait que les élections présidentielles sont prévues en 2015, c'est demain. Et il faut tout faire que les élections de 2015 soient pleinement démocratiques, pluralistes et inclusives et que ne soient pas la répétition des élections qui ont eu lieu, les présidentielles précédentes. Mais le deuxième point important, c'est la montée des tensions dans la zone sahélo-sahélienne, illustrée par la crise malienne, qui fait que les forces de fragmentation ou de division religieuse ou ethnique ou politique ne sont pas extérieures, elles sont dans l'ensemble des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et que les pays qui pourront résister à ces forces dans un temps très long, parce qu'il faut du temps, sont les pays qui auront instauré un tissu et un cadre démocratique pluraliste dont la vitalité va empêcher ces forces d'avoir prise sur le peuple ivoirien. Donc, l'agenda politique est déterminé par ces deux questions-là. Et donc, il y a une urgence de relancer le débat, la négociation politique, par des actes symboliques très forts, mais également par des mesures juridiques, notamment la création d'un statut de l'opposition et donner à l'opposition les moyens de s'exprimer, de se rassembler et de manifester, et ensuite lancer la dynamique démocratique. Mais ça signifie aussi que tout le monde joue le jeu démocratique et que l'opposition aussi n'utilise pas l'arme du boycott, parce que le boycott n'est pas efficace. Le boycott n'est pas un message politique qui peut réussir à long terme. Tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire le savent. Mais il faut créer les conditions pour que tous les partis politiques soient inclus dans une dynamique dont l'horizon, je le répète, est extrêmement court, c'est 2015. Le défi est maintenant au niveau des élites ivoiriennes. C'est eux qui sont à la base de la crise. C'est à eux de changer leur éthique politique pour sortir de la crise d'une manière durable.
Nous finissons cette interview sur cette note d'espoir. Monsieur Doudou Diène, merci beaucoup.
L'appel de Doudou Diène au devoir en Côte d'Ivoire, le dialogue et la justice pour tous, l'expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, était au micro d'Alpha Diallo. Merci à l'équipe technique qui était aujourd'hui aux manettes. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain voyage avec l'équipe de bord de la Radio de l'ONU.